CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Méfie-toi des richesses de ce monde ». Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons nous méfier des richesses. Nous allons vider nos comptes bancaires et nous dépouiller.
Parce que Jésus a dit que c'est un riche de rentrer dans le royaume des cieux.
Difficile, impossible. Non, nous allons voir que les richesses en tant que telles n'ont rien de mal. Donc gardez vos comptes bancaires aussi garnis qu'ils le sont, je ne sais pas à quel point. Et nous allons surtout voir que les richesses, l'appât du gain, peut nous amener à faire certains compromis, certaines choses qui vont avoir des répercussions parfois jusque dans notre éternité. Donc ça vaut la peine de s'en méfier. Et Anne, tu vas faire une rubrique flashback aujourd'hui.
Oui, je vais vous raconter l'histoire très 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 inspirante de Sadhu Sundar Singh, qui était un Indien qui vivait au début du XXe siècle et qui a été vraiment une figure marquante de l'Église indienne. Et justement, dès le début de sa conversion, il a été confronté à ce choix, parce qu'on lui mettait sous le nez toutes les richesses et le pouvoir qu'il pouvait avoir en restant dans sa classe sociale, mais il a préféré de suivre Jésus-Christ.
Alléluia, tu le connais bien, toi.
Sadhu, c'est l'un des premiers livres chrétiens que j'ai lu après ma conversion. Je me souviens, mais qu'est-ce qui ressemble à Jésus ?
C'est fou.
Ah, ça nous met l'eau à la bouche. Tu m'en as souvent parlé. Donc, quand Anne, tu m'as proposé cette rubrique, j'ai dit oui tout de suite, c'est sûr. Bon, on va voir tout ça en deuxième partie d'émission. Avant ça, on va commencer avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour.
Alors, le titre de ma pensée, c'est « Argent, gloire et succès, à quel prix ?» Et je vais commencer par vous poser quelques questions qui donnent à réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour obtenir la position que vous avez aujourd'hui ? Combien vous a coûté votre promotion, le poste que vous occupez aujourd'hui, de devenir peut-être l'épouse de cette personne ? Combien vous a coûté le style de vie que vous menez aujourd'hui ? Alors, est-ce que cela vous a coûté un gros mensonge ? Une petite tricherie sur votre CV, des pots de banane à vos collègues, des critiques dans leur dos, des murmures. Est-ce que cela vous a coûté la corruption ? Est-ce que cela vous a coûté pour certains de vous dénuder ? Ou alors, est-ce que cela vous a coûté d'avoir une fausse identité, de faire un faux acte de naissance ? Si vous avez mis en place toutes ces choses-là, eh bien, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que tout ce dont Dieu n'est pas la source peut partir en fumée du jour au lendemain. Et cela est valable pour les richesses, cela est valable pour tout ce qu'on a dans la vie, en fait, dont Dieu n'est pas l'auteur. La Bible nous dit dans le psaume 73, c'est Asaph qui a écrit ce psaume, et il parle, en gros, des personnes qui acquièrent, des personnes méchantes. En fait, c'est des personnes qui acquièrent des choses, et Dieu n'est pas l'auteur des choses que ces personnes ont eues dans la vie. Et en fait, il dit « J'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants, parce que nous sommes des êtres humains et parfois, on peut voir des personnes qui prospèrent, qui ont une certaine gloire, qui ont une certaine richesse à laquelle on aspire. » Et elles ont eu cet argent peut-être de la mauvaise manière et on peut les envier comme ça et vouloir être comme elles. Et c'est un peu le cas ici dans le psaume d'Asaph qui dit qu'il était jaloux. Il enviait ces personnes-là. Il se disait « Rien ne les tourmente, leur corps prend de l'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes, ils sont toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. » Et lui se disait « Mais c'est pour rien que j'ai purifié mon cœur, donc c'est pour rien en fait que je suis restée attachée à Dieu. » En d'autres termes, c'est ce que ça signifie. Moi aussi, j'aurais pu faire quelques magouilles et avoir de l'argent. En d'autres termes, c'est ce que ça signifie. Et il dit « Après réflexion, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, ben, la difficulté a été grande à mes yeux jusqu'au moment où je suis entrée dans le sanctuaire de Dieu. J'ai prêté attention au sort final des méchants. » Il dit « Tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que du jour au lendemain, leur richesse, elle s'est envolée. Ces choses qu'ils ont mis du temps pour avoir, elle s'est envolée du jour au lendemain. Pourquoi ? parce que Dieu n'était pas la source. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, on peut voir des chrétiens même qui vont jusqu'à s'éloigner de leur appel pour poursuivre cette gloire, pour poursuivre cette richesse dans laquelle Dieu n'a aucune part. Et vraiment, c'est dommage. Et on peut voir le cas, par exemple, de Judas dans la Bible. Judas a été appelé pour être un disciple de Jésus, mais son amour pour l'argent l'a poussé à trahir Jésus-Christ et il s'est suicidé par la suite. On peut aussi voir le cas de Démas, qu'on lit dans Philémon, dans Colossiens. Paul présente Démas comme son collaborateur dans l'œuvre. C'est quelqu'un qui a été appelé pour servir Dieu, mais quand il écrit à Timothée, il dit « Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent, donc pour l'amour, en fait, des choses que le monde a à offrir, en fait. » Et aujourd'hui, je vous encourage que cela ne soit pas votre histoire. Ne vous laissez pas détourner par les richesses de ce monde. Ne vous laissez pas détourner par tout ce que le monde peut vous offrir. Je vous encourage à marcher dans l'intégrité. Les richesses en soi ne sont pas un problème, comme on a dit, mais marchons dans l'intégrité, marchons vraiment dans la direction que Dieu a choisie pour nous. Et peut-être vous me regardez, vous vous dites, mais moi j'ai déjà franchi ce cap-là, moi je suis déjà allée un peu trop loin. Je veux vous dire aujourd'hui, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, il n'est pas trop tard pour avancer avec lui, parce que la vraie richesse, la vraie gloire se trouve en Jésus-Christ lui seul.
Oh, amen, amen, ça c'est vrai. Et il faut pas qu'on l'oublie, ça doit être un peu comme un garde-fou dans notre vie. Notre richesse, notre plus grande richesse, qui vaut plus que l'or, l'argent, les diamants et tout ce qu'il y a sur la terre, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous donne la vie éternelle, c'est lui qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et on a en lui cette assurance, en fait, de ne jamais manquer de rien dans ce siècle présent, mais aussi après. Et c'est notre espérance, et certains l'oublient. Et ça peut paraître fou quand on voit la première partie de ta pensée où tu poses des questions aux gens, de se dire, mais est-ce que certains font vraiment ça aller accepter des pots de vin, accepter de faire des choses illégales pour avoir une promotion, etc. Mais dans certains milieux professionnels, c'est monnaie courante, c'est même la façon dont on progresse. Pour avoir un meilleur poste, il faut tricher, il faut écraser les autres, il faut mal se comporter, etc. Et c'est tentant. C'est tentant quand on a une certaine ambition professionnelle, on a fait certaines études, on a des plans, des projets, et même en tant que chrétien, on peut être tenté par ces choses-là, parce que peut-être c'est le seul moyen même de progresser dans certaines entreprises. Et c'est difficile, mais on va regarder les conseils que Paul a donnés à Timothée dans notre verset du jour. Conseils qu'il nous donne à nous aussi également. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Donc on ne nous parle pas ici d'être pauvre et malheureux et de manquer de tout, au contraire. Celui qui nous donne cette assurance, c'est Jésus-Christ, comme tu l'as dit, Aurélie. Et on voit dans ce verset, Aurélie, que les richesses de ce monde sont complètement incertaines, en fait.
Exactement. Non seulement elles sont incertaines, mais elles sont aussi éphémères. Mm-hmm. Et on aurait pu lire tout le livre d'Ecclésiaste, hein, parce qu'il explique bien ces choses-là. Et d'ailleurs, même, dans Ecclésiaste 2, en fait, il faut savoir que lui, il a connu la richesse. Et donc, il sait de quoi il parle. Mm-hmm. Et il dit... J'ai amassé de l'argent, de l'or, des richesses des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs, des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité, je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans perdre ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Je me suis réjoui par tout mon travail. Et il dit, c'est toute la part que j'ai retirée. Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre du vent. Donc voilà quelqu'un qui a eu tout, en fait. Il a eu tout ce que les gens recherchent parfois dans le monde. Il a eu tout ce que quelqu'un peut désirer. Il ne lui manquait rien. Quand il se tournait à gauche, il avait tout. À droite, il avait tout. Et on aurait pu, juste si on le voyait aujourd'hui, on aurait pu dire, waouh, qu'est-ce que j'en vis, cet homme-là. Vraiment, rien ne lui manque. Vraiment, Dieu l'a béni. Il est prospère. Ça, c'est ce qu'on aurait pu dire en le voyant. Mais il dit que quand il a réfléchi et il constate que tout n'est que fumée et revient à poursuivre du vent. Mais ça veut dire en fait que les richesses de ce monde en soi ne peuvent jamais nous rassasier, elles ne peuvent jamais nous combler, elles sont incertaines parce que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Mais par contre, quand on a Christ avec nous. Lui, on ne le perd pas. Amen. Lui, il est là. Mais la richesse, elle s'envole comme la fumée. Si y a des personnes qui mettent leur richesse dans leur entreprise, mais il suffit, je ne sais pas, un truc se passe en bourse.
Un crash boursier, oui.
Voilà, et puis voilà. Ouais. C'est fini. Mm-hmm. L'entreprise pour laquelle vous avez travaillé, vous vous êtes battu tout au long de votre vie, elle part en fumée. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on ne peut pas se confier dans les richesses. Notre confiance se trouve en Dieu. Et c'est Dieu qui... En fait, c'est Dieu notre richesse. Amen. C'est lui notre gloire. C'est lui notre espérance. C'est lui notre avenir. Et c'est en lui, en fait, qu'on choisit en fait, d'investir.
Oui.
Mmh. Il y a un proverbe qui dit « Poursuis pas les richesses et n'y applique pas ton intelligence ». Donc, le problème, ce n'est pas d'avoir des richesses. Le problème, c'est où est notre cœur.
Mmh.
Et puis, le problème aussi, c'est de savoir si c'est Jésus qui est en premier, qui est sur le trône. Mmh. Et puis, quand tu disais que les richesses, surtout les richesses mal acquises, de toute façon, sont très volatiles, ça me faisait repenser à un exemple. Je me souviens avoir entendu l'histoire d'un très, très, très riche homme d'affaires au XVIIIe siècle. Il était tellement riche qu'il est devenu, à un moment donné, plus riche que l'État français.
Wow.
Il a même prêté de l'argent au roi parce que l'État français était complètement ruiné par toutes les années de guerre, les constructions de Versailles et tout ça. Et en fait, cet homme-là, il avait gagné son argent en faisant la traite des esclaves.
Oh.
Il avait amassé une richesse fabuleuse. Et il se dit, prêter de l'argent au roi. Ouais. Puis quelques années plus tard, le roi était jaloux, il l'a mis en prison, il lui a confisqué toutes ses richesses, et cet homme-là a fini sans enfant, ruiné, en prison, et tout s'est envolé.
Oh, yeah, yeah.
Et quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, de toute façon, Dieu est souverain. Et les richesses mal acquises, de toute façon, ne profitent pas. Hein, c'est un proverbe.
Oui.
Richesses mal acquises ne profitent pas.
Amen. Mm-hmm.
Alors, si on se confie dans les richesses de ce monde, ben, on est bien, bien incertain de l'avenir. Parce qu'elles ne font que passer, elles sont très, très, très éphémères.
Ça, c'est vrai.
L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mm-hmm. » Il a tout mis en trois catégories, convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Et toutes ces choses-là, quand tu t'attaches à ça, ces choses-là, tôt ou tard, vont passer. C'est pour ça qu'elle a dit, il y a des crashs financiers, des gens qui se tuent.
Oui.
Parce qu'il n'y a plus rien. Pourquoi est-ce que je vivrais? J'ai perdu ma maison, tout ce que j'ai construit.
Oui.
Et ça revient à ça. Ta joie que tu as, la joie de ton salut, personne ne peut l'enlever.
Oui. Mm-hmm.
Personne ne peut l'enlever. Quand tu vas à l'église et tu vois la personne qui est à côté de toi, qui pourtant a tellement moins d'argent que toi, et cette personne-là danse et se réjouit devant le Seigneur le dimanche matin, et toi, tu es là et tu as l'air de frustré. Mais tu dis, mais ta joie, elle vient de où?
Oui, exactement.
Et ça, on ne peut pas nous l'enlever.
Amen.
Au plus profond de nous, et c'est pour ça qu'on a fait des émissions sur les chrétiens persécutés, toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas ça qui fait notre joie. C'est vraiment la joie du salut, connaître le Seigneur Jésus. Ça revient toujours à ça. Toutes ces choses-là vont passer. Tout va passer. Comme ça, tôt ou tard. Mais ceux qui ont fait la volonté de Dieu vont demeurer éternellement.
Amen. On doit vraiment, en tant que chrétien, ne pas... être comme les gens du monde. On n'est pas dans le même royaume, on n'est pas dans le même système de pensée. Et c'est vrai que tout autour de nous, à longueur de journée, dans le monde se mesure, ouais, est-ce que tu es riche, est-ce que tu as réussi dans la vie, est-ce que tu es quelqu'un. Et ça a tendance à rentrer dans l'église, dans nos mentalités. C'est pour ça qu'il faut vraiment ce qu'on se disait. Qu'est-ce que Jésus dit, lui? Et Jésus nous dit, comme on l'a dit, que la véritable richesse n'est pas cette richesse éphémère, cette richesse du monde, mais on doit avoir nos yeux fixés sur les richesses éternelles qu'on s'amasse là-haut.
Ça.
Et ça doit faire partie de... Ça doit être vraiment enraciné dans notre cœur. Je ne suis pas sur terre pour m'amasser des richesses. Si les richesses viennent à moi, comme Abraham, comme Joseph, qui ne les cherchait pas, elles venaient, la bénédiction, gloire à Dieu, et je serai libéral, je donnerai. Mais je ne dois pas chercher ces richesses ici-bas. Je dois chercher à m'amasser des trésors là-haut. D'ailleurs, tu lisais le passage de Timothée, recommande, Paul qui disait à Timothée, recommande aux riches de ce monde de ne pas mettre leur espérance dans les richesses, etc., leur richesse, mais en Dieu. Mais il dit après, verset suivant, verset 18, recommande-leur d'être riches en bonnes œuvres afin de s'amasser un trésor solide.
Amen.
Et là, il parle du trésor au ciel.
Ouais.
Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être découragé en se disant « Ouais, bah, je ne réussis pas autant que les autres réussissent peut-être, mais mon but n'est pas de réussir selon les richesses de ce monde. Mon but, s'il faut être riche, c'est de m'enrichir dans les richesses éternelles. Ne vous amassez pas des trésors sur cette terre, là où il y a le voleur et la rouille. mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça, c'est notre message. Ça, c'est notre ADN. Ça, c'est notre philosophie.
C'est à savoir, c'est à se souvenir aussi, quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit, toutes ces choses, je peux te les donner.
Eh oui,
mais c'est ça.
Regarde tout ça, je vais les mettre entre tes mains.
C'est ça.
Si.
Non. Ouais, c'est ça, si tu te prosternes
si
devant moi.
Si tu te prosternes.
Et tout. Mais ça, aujourd'hui, ça fonctionne encore. On pense, faut pas être débile et penser que le diable fonctionne plus comme ça, c'est pas vis-à-vis des chrétiens. On va dire, ben oui, mais bon, tu sais, ta conscience, elle te dit de pas faire ça, mais tu sais que tu vas pouvoir avoir une meilleure maison si tu fais tel truc.
C'est ça.
Là, tu vas et tu couches avec le patron.
C'est ça. Il y a un prix à payer, en fait.
Oui, il y a un prix à payer et vraiment, c'est, il faut savoir, en fait, que Dieu est notre source. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser. Et Dieu, c'est notre Père aussi, en fait. Et il veut notre bien. Et il faut qu'on arrive à sortir du système de ce monde. Il faut qu'on arrive à renouveler notre intelligence pour comprendre, en fait, que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Il y a cette personne-là que Frank décrit, par exemple, qui est dans une situation où on lui dit, ben, c'est comme ça. Si tu couches pas avec le patron, ben, t'auras jamais cette place. La place, elle est là, elle a deux doigts de toi, mais il faut que tu fasses ça. Il y a d'autres personnes qui ont fait ça et puis ça a marché. Mais c'est important de comprendre que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Parce que la façon dont Dieu fonctionne, Dieu est surnaturel. Dieu n'est pas naturel. Dans le naturel, il y a une façon de faire que tout le monde fait. On sait qu'OK, pour acquérir telle chose, il faut passer par ce canal. Mais Dieu n'est pas naturel. Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Et quand Dieu fait quelque chose, c'est normal que ce soit différent de ce que le monde a à nous proposer, en fait. Parce que Dieu est Dieu. Donc, on peut pas juste se dire, ah non, mais si je fais pas ça, peut-être j'aurai pas d'avenir, ça va pas marcher pour moi. Non, Dieu est notre source. Et en tant que source, il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Et franchement, moi, j'ai envie de dire aux gens, quand on vous propose une position, il faut payer, il faut cricher et tout, c'est cette personne-là qui perd. C'est pas vous qui êtes en train de perdre quelque chose. Cette personne est en train de perdre quelque chose. Et il faut avoir cette mentalité-là, de savoir que Dieu est tout-puissant et que tout, peu importe les obstacles qui sont devant nous, peu importe ce qu'on a décidé de dire ou de faire, Dieu reste tout-puissant et Dieu peut donner au-delà de mes attentes. Dieu peut faire au-delà de ce que moi-même j'imagine. Et c'est vraiment avec cette mentalité qu'on doit avoir pour marcher dans l'intégrité, parce que, oui, le monde va nous proposer des richesses, comme on a dit, mais il va falloir tenir ferme, il va falloir marcher dans l'intégrité et savoir que notre Dieu est puissant pour déplacer toutes ces montagnes qui sont devant nous et pour nous donner le meilleur.
Amen.
Et même si on n'a pas, à cause de notre intégrité, ce qu'on aurait voulu avoir sur cette terre, une chose est sûre, c'est que Dieu récompensera pour l'éternité notre intégrité.
C'est vrai.
Amen.
Il y aura une récompense.
Et une récompense éternelle. Ça vaut vraiment la peine que quelques années de gloire sur cette terre. On va maintenant parler, comme tu l'as dit en début, Anne, d'un homme qui a accepté de renoncer à beaucoup pour suivre le Seigneur. On y va dans la rubrique flashback. Okan, aujourd'hui, comme on l'a dit, tu nous parles du Sadhu Sundar Singh.
On dirait que vous parlez en langue quand vous dites ce nom.
Qu'est-ce que c'est?
Ben, Sundar, c'est son prénom. Okay. Singh, c'est son nom de famille. Et Sadhu, ça veut dire un homme sage.
Ok.
Je sais pas si c'est en ourdou, ou en tout cas, c'est une langue d'Inde.
Okay.
Donc, on va pouvoir t'appeler Sadhu Anne Berson.
Ben non, c'est une femme, ça marche pas pour les femmes. Ah. En tout cas. Oui, donc, c'est un personnage qui est important parce que dans le début du XXe siècle, il a été une figure majeure du christianisme et en particulier pour l'histoire d'Asie, pour l'Église d'Asie. Et il ne ressemble à aucun autre. Il a été d'ailleurs beaucoup critiqué parce qu'il sortait du schéma du missionnaire américain, évangéliste, standard, avec sa Bible sous le bras et son petit col blanc. Il avait vraiment une personnalité très particulière. Et
il avait un turban sur la tête.
Je vais vous expliquer pourquoi il a un turban sur la tête. Et c'est vrai qu'il a apporté sans relâche et sans compter sa peine le message de l'évangile dans toute cette zone qui est l'Inde. Bon, on va peut-être voir une carte. Je vais vous montrer où était son terrain de jeu, son pâté de sable. Voilà, donc il est né au nord de l'Inde, dans le Pendjab, si vous connaissez un peu la région, donc à la frontière pakistanaise. Il a prêché jusqu'en Afghanistan, dans les villages de l'Himalaya, au Népal, et il est même descendu jusqu'au Sri Lanka. Vous voyez, Ceylan, tout au bout de la pointe indienne. Donc, il a vraiment, au cours de sa vie, parcouru à pied des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres, se consacrant à la prédication de l'Évangile.
Alléluia.
Et c'était vraiment un témoignage vivant de l'amour de Christ et de la simplicité de Christ. Il était vraiment réputé pour vraiment cette personnification de l'amour de Christ. Et en 1918, il était en train de prêcher dans une ville indienne qui s'appelle Trivandra. Et un missionnaire s'est exclamé « Personne n'a eu un impact aussi grand que cet homme dans l'église indienne. » Et même un missionnaire wesleyen décrivait la présence du sadhu en disant ceci « Il a une noble présence. Je n'ai jamais rencontré personne qui nous a fait autant que lui réaliser avec une telle intensité la façon dont notre sauveur Jésus-Christ a vécu. » C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Il a vraiment personnifié l'exemple de Christ. Et il a dit ceci, Sundar Singh a amené à nous tous une vision fraîche de Dieu et de Christ, et beaucoup parmi nous réalisent à quel point par sa communion intime avec Jésus et son entière obéissance à sa volonté, il est devenu si semblable au Seigneur. Et Jésus, c'était son unique modèle, il n'en avait pas d'autre, et partout où il passait, les gens s'écriaient, il est vraiment comme le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu était puissamment sur lui, et quand il parlait, les gens étaient saisis, convaincus que c'était la vérité. Et il était à la fois d'une très grande humilité, et il se dégageait de lui vraiment une grande noblesse. Et quand je dis qu'il était humble, il avait juste à lui ses vêtements et un petit Nouveau Testament en ourdou, la langue qu'il parlait. Et il s'était dépouillé de tout.
C'est tout ce qu'il avait.
C'était
ses uniques possessions, ça.
C'était ses uniques possessions. Et je vais vous raconter un peu plus tard dans ma rubrique comment il en est arrivé là. Parce qu'il n'a pas toujours été dans cette pauvreté, dans cette simplicité. Après avoir été baptisé, il avait fait le vœu d'obéir et de servir Christ toute sa vie. Alors, il s'est jamais marié. Il était convaincu par l'Esprit de Dieu d'adopter la tenue des sadhus, c'est-à-dire les hommes sages qu'on respectait, qu'on écoutait pour leur sagesse. Et grâce à ça, le Saint-Esprit l'avait inspiré à faire ça, et grâce à ça, ça lui a ouvert toutes les portes, de toutes les castes. Et on sait que la société indienne est très, très stratifiée, et on ne passe pas d'une caste à l'autre. Et grâce à ça, il a pu aussi bien parler aux intouchables miséreux qu'aux gens de la grande noblesse.
Grâce à sa tenue de
grâce à sa tenue de sadhu qui était reconnue et respectée. Et il a pu parler, oui, je vous dis, aux grands seigneurs du pays comme aux plus pauvres. Et moi, j'ai choisi de vous raconter son histoire ce matin parce qu'il était très résilient à la persécution. Parce qu'il a vraiment connu, comme l'apôtre Paul, toutes sortes d'épreuves et de persécutions dans une Inde du début du XXe siècle, encore maintenant, qui est majoritairement hostile au christianisme. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment comment il est arrivé au Seigneur, la façon dont il a connu Jésus. Et puis ce qu'il a dû vraiment, à quoi il a dû renoncer pour suivre Jésus. Hein, il est né à la fin du 19e siècle au Pendjab, au nord de l'Inde, hein, comme je vous ai dit. Et en ce début de 20e siècle, si vous vous souvenez d'autres rubriques que j'ai faites, on est en plein boom, on est en plein réveil spirituel et l'Esprit de Dieu se répand dans plusieurs pays comme jamais de l'histoire de l'humanité. Hein, on sait qu'avant 1920, donc entre 1895 et 1920, il y a eu une trentaine de réveils spontanés de l'Esprit de Dieu, des effusions de l'Esprit de Dieu dans différentes parties du monde, en Chine, en Inde... On a vu à Los Angeles, en Norvège, il y a eu des réveils spirituels partout, spontanés. Et ce petit gars, il a 16 ans à l'époque que je vais vous raconter maintenant, il est aussi réveillé, touché par l'Esprit de Dieu, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y soit.
C'est ça. Comment il est confronté à la parole de Dieu là-bas, au Pendjab?
C'est vraiment très surprenant. Écoutez ça. Alors, il fait partie d'une famille très riche, hein, une famille même de la haute société sikh. Hein, les Sikhs, c'est une religion du nord de l'Inde. Et son père est un riche propriétaire de la ville de Rampur, dans l'état du Patiala. On voyait, c'était au nord de l'Inde. Et il a été élevé dans le luxe. Hein. C'était vraiment une famille très bien nantie. Et chaque année, d'ailleurs, quand la chaleur devenait insupportable, ils avaient une résidence secondaire sur les contreforts de l'Himalaya. Ils allaient prendre le frais dans l'Himalaya. Okay. C'était une famille qui était riche. Il avait une maman qui était très instruite, une femme raffinée, talentueuse. Et cette femme était amie avec les dames de la mission presbytérienne. Alors, elle a mis son enfant très tôt à l'école des missionnaires américaines presbytériennes. Il était très instruit, ce petit bonhomme. Il suivait partout sa mère et elle faisait en sorte qu'il soit très instruit. Et elle lui a inculqué vraiment cet amour de la paix de cœur. Elle lui a vraiment instillé. Elle n'était pas chrétienne, mais elle avait compris que la chose la plus précieuse dans sa vie, c'était d'avoir la paix du cœur, ce qu'on appelle dans cette zone de l'Inde le shanti. C'est la paix du cœur, tu as une plénitude de l'âme. Et elle lui avait dit, c'est ça la richesse la plus précieuse que tu peux chercher dans une vie. C'est un petit enfant intelligent. À 7 ans, il avait appris par cœur, en sanskrit, les 18 chapitres du Bhagavad Gita, qui est un texte fondamental de l'hindouisme. Donc, il était intelligent, il était instruit, et il a lu quasiment tous les textes religieux disponible sous sa main. Il a lu le Coran, il a lu les écrits sikhs. Et puis à l'école, on lui disait de lire la Bible. Et tous les matins, en commençant l'école, on enseignait une partie de la Bible. On lui apprenait que ben, c'est normal de lire tous les matins un petit bout de la Bible. Et là, il commençait à être très agacé. Hein. C'était un adolescent et il était très entier. Il disait, mais nous sommes des sikhs. Et notre livre sacré, c'est le Granth. Et je ne vois pas pourquoi je lirais la Bible tous les jours. Et c'était un leader. Alors rapidement, il a pris la tête de file de toute la rébellion et ils se sont mis tous à se révolter contre la religion chrétienne dans leur école presbytérienne. Et il était tellement... Il s'était trompé d'endroit. Mais en fait, les enfants des familles chics étaient dans les écoles chrétiennes. Et un jour, il a même déchiré publiquement le Nouveau Testament qui lui avait été distribué pour montrer son opposition à la foi chrétienne. Alors son père l'avait sévèrement repris, lui avait dit que la Bible c'était un livre respectable et qu'il aurait dû le rendre aux missionnaires plutôt que le déchiqueter. Et il était tellement acharné contre la religion chrétienne qu'un jour, un missionnaire est passé à côté de lui et son ombre est passée sur lui. Et il a mis une heure à se laver pour se purifier de l'ombre du missionnaire chrétien. Donc pour vous dire à quel point il était opposé à la foi chrétienne. Mais à un moment donné, il avait quand même étudié beaucoup les textes religieux et rien ne satisfaisait son cœur. Il était toujours devant un vide et son cœur était de plus en plus désespéré parce qu'il ne trouvait pas le shanti que lui avait dit, que lui avait instruit sa mère. Et il cherchait cette paix de l'âme et il s'est souvenu d'un passage que les missionnaires lui avaient lu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Et il a commencé à relire ce Nouveau Testament qu'il avait déchiqueté, enfin un autre. Et l'histoire de la croix a commencé à le fasciner. Et il a commencé, au lieu d'aller se révolter avec ses copains et puis de dire du mal des chrétiens, il a commencé, entre les pauses, entre les cours, à aller parler à ses profs chrétiens et leur poser des questions sur la Bible. Ça commençait vraiment à faire un travail. Alors, ses parents ont été avertis par d'autres élèves. Et les parents ont été avertis qu'ils commençaient à prendre un mauvais pli et qu'ils commençaient à s'intéresser au christianisme. Alors, les parents n'ont pas tout de suite pris au sérieux. Ils se sont dit, bon, on va le laisser faire, ça va lui passer. Mais un soir, il était tellement écrasé, ce jeune, par le fardeau de son péché, qu'il savait plus comment faire. Wow. Il était acculé vraiment au fond d'une impasse. Et la seule solution qu'il s'est dit, c'est « je vais me mettre sous le train ». Tellement il était pressé de toutes parts et déchiré. Et au fond de la propriété de ses parents, il y avait l'express de Ludhiana qui passait. Il s'est dit ben, « demain matin à l'aube, je vais aller en finir ». Et comme c'est la tradition dans sa religion, enfin dans son milieu culturel, il s'est baigné pour se purifier. Puis il a quand même pris son Nouveau Testament, puis il allait se renfermer dans sa chambre. Et toute la nuit, il a lu le Nouveau Testament et il a médité. Et à l'aube, juste avant qu'il fasse ce qu'il avait décidé de faire, il a vu une nuée arriver dans la chambre et le visage de Jésus lui a apparu. Wow. Il y a vraiment eu une apparition de Jésus. Et Jésus lui a dit « Mais pourquoi me résistes-tu ? Je suis ton sauveur, je suis mort à la croix pour toi. » Et là, il s'est senti envahi d'un amour qui dépassait tout et toutes ses résistances se sont effondrées. Et alors, il s'est dit « Mais c'est ce fameux shanti que je cherchais, cette plénitude de l'âme, cet amour qui se déverse. » Alors, il s'est relevé complètement transformé et bien sûr, il n'est pas allé se mettre sous le train. Il était enthousiasmé par la rencontre qu'il venait de faire. Alors, il s'est précipité dans la chambre de son père pour lui dire « Papa, papa, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai rencontré Jésus ce matin et voilà ce qu'il m'a dit, je suis devenu chrétien. » Et là, son père était comme assommé, il venait se réveiller, il s'est dit « Retourne te recoucher !» Mais il ne l'a pas pris au sérieux du tout. Mais Sundar, à partir de ce moment-là, ne va plus jamais relâcher la main de son sauveur.
Il a 16 ans, là, c'est
ça ? Il a 16 ans. Mais seulement, on est dans un milieu sikh, bourgeois, riche, et les 9 mois qui ont suivi ont été terriblement éprouvants. parce qu'il était obligé de rester chez ses parents, mais là, la persécution a commencé. Son frère, un de ses frères, a commencé à beaucoup le persécuter. Son père a tout fait pour le raisonner, pour qu'il abandonne sa foi chrétienne nouvelle, et il lui a dit qu'il apportait la honte à sa famille, il lui a rappelé son statut social privilégié, il lui a dit qu'une telle famille sikh de haut rang ne pouvait pas se permettre la honte d'avoir un de ses enfants chrétiens. Il lui a parlé aussi des grandes richesses dont il allait hériter, hein. Il a 16 ans, l'âge adulte arrive à grands pas, il va hériter de grandes richesses et aussi de pouvoir, il y avait des charges puissantes qui étaient associées à son statut social, mais il n'y avait rien qui arrivait, rien ne vainquait la foi de Sunda, il restait de marbre. Alors son père lui a sorti tous les arguments, l'honneur de la famille, la disgrâce qui accompagnait son choix, et il était vraiment attristé de faire de la peine à sa famille, mais il tenait bon, il voulait rester fidèle à Christ. Alors son père s'est mis à pleurer, il a pleuré devant lui, s'est humilié devant son fils pour le supplier de revenir à la religion sikh, et puis même pour le souvenir de sa mère décédée, sa mère qu'il aimait tant. Rien n'y faisait. Il aimait Dieu et rien ne le faisait changer d'avis. Alors un oncle honorable l'a pris chez lui et il l'a mis à part dans une pièce, il l'a fermé à clé. Et là, il a cru sa dernière heure arrivée, il a dit « ça y est, il va me tuer ». Et en fait non, il a ouvert un coffre-fort avec des richesses comme il n'en avait jamais vu. Il y avait de l'or, il y avait des bijoux, il y avait de l'argent. Et là, il lui a dit « mais regarde, tout ça sera à toi si tu redeviens sikh. Mais si tu deviens chrétien, tu n'auras pas toutes ces choses-là ». Et comme il résistait, il a alors, l'oncle, enlevé son pugari, là, le turban, qui est un signe d'honneur. Et il s'est humilié devant son neveu. Il a déposé à terre à ses pieds le pugari pour lui dire « renonce à ta religion chrétienne ».
C'était une symbolique et forte pour lui.
C'était extrêmement fort. C'était un acte très, très humiliant. Et Sundar s'est mis à pleurer parce qu'il a vu l'humiliation de son oncle. Et dans sa culture, c'était impensable que son oncle s'humilie à ce point. Et il lui a dit tout ceci sera à toi si tu renonces à être chrétien ». Et à ce moment, le cœur de Sundar a été submergé par un torrent d'amour et de consécration envers Christ. Et le refus de se plier à la demande de son oncle est venu naturellement sur ses lèvres.
Wow.
Il était comme porté. Alors là, pour la famille, c'en était trop. Le père, quand il a su ce qu'il avait fait vivre à son oncle, l'a insulté, traité de tous les noms et lui a dit qu'il était vraiment le rejet de la famille. Et il faisait plus partie de la maison. Et au même moment, un autre petit gars de l'école s'est aussi converti. Et la famille du gars a fait un procès à l'école chrétienne. Et le petit gars a même répondu au juge qui lui demandait. Mais il a dit, mais c'est pas la faute des professeurs. C'est vraiment que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et l'école a été obligée de fermer. Elle a été violemment persécutée. Donc l'école a fermé suite à la conversion de ces deux jeunes, donc Sundar et son ami. Alors, les parents de Sundar, évidemment, l'avaient retiré de l'école et il ne pouvait plus rester dans la maison de son père. Alors, il est allé se réfugier chez des missionnaires et dans sa nouvelle école, donc dans une autre ville voisine. Puis dans la nouvelle école, entre guillemets chrétienne, il y avait des camarades chrétiens. Puis là, au bout d'un quelques temps, il s'est rendu compte qu'ils étaient juste chrétiens de nom. Ils n'avaient rien de chrétien. Leur comportement, ce n'était pas ce que lui avait connu en lisant le Nouveau Testament. Et il était écœuré. Alors, il est reparti chez ses parents. Alors ses parents se sont réjouis, ils ont dit « oui, il a tout laissé tomber, il revient, le fils prodigue ». Et quand il a dit à ses parents que ben non, il renonçait pas à Jésus, alors là ça a été vraiment la grosse déception. Et là Sundar a fait quelque chose d'extrêmement audacieux, il a enlevé son turban, il avait toujours son turban, il a enlevé son turban et il s'est coupé les cheveux. Et dans la religion sikh, c'est interdit de couper ses cheveux. Et quand tu coupes tes cheveux pour un sikh qui se convertit, c'est vraiment le pas ultime pour dire « maintenant, je m'engage avec Christ et plus rien qui me retient à la religion sikh ». Et là, il a vraiment officiellement et ouvertement renié sa religion et renié son héritage. Alors, il est jeté dehors, exclu de sa caste, traité comme le dernier des derniers. Et même, on le faisait dormir dehors, il n'avait plus le droit de rentrer dans la maison et on lui balançait à terre sa nourriture comme un animal. Alors, il pleure, la croix est lourde à porter, mais rien ne le fait renoncer à Christ. Alors son beau-frère tente une dernière fois de le convaincre, il le retient chez lui, il le fait venir chez lui, et là encore, il refuse d'entendre raison. Alors le Raja de Naba, qui est de dynastie royale, le convoque et le garde deux jours chez lui pour essayer de le convaincre. Rien n'y fait. Alors là, il le fait comparaître devant l'Assemblée d'État, et en lui rappelant qu'il est un singh, ça veut dire un lion dans la langue locale, et qu'en devenant chrétien, il deviendra un chien. Donc de lion, il va passer à chien. Il refuse encore d'abjurer sa foi. Alors à son retour, son père l'insulte, le maudit et lui ordonne de partir le lendemain. Alors le lendemain matin, il prend la route, mais ce qui est bizarre, il lui donne quand même un casse-croûte. Il mange le casse-croûte et en fait, c'est de la nourriture empoisonnée.
Oh.
Et quand il arrive chez le pasteur, il va se réfugier chez un pasteur et sa femme, il vomit déjà du sang, il est au plus mal. Et donc, ils appellent le médecin dit, il est fichu, c'est terminé, il passera pas la nuit. Alors, le pasteur et sa femme passent la nuit à prier pour lui. Et il se relève. Wow. Et le lendemain matin, le médecin passe pour voir comment ça va et il est stupéfait de voir que Dieu l'a relevé. Alors le médecin demande une Bible et se convertit. Et d'ailleurs, par la suite, dans les années 20, il est devenu un missionnaire aussi. Premier témoignage. Et donc Sundar, quelques temps après, je crois quelques jours après, se fait baptiser. Et il reçoit la conviction qu'il servira Jésus-Christ dans ses habits de sadhu, d'homme sage. Et il a commencé le long périple qu'on lui connaît dans tous ces pays d'Himalaya, de l'Inde, du Pendjab et jusqu'à Ceylan au sud.
Wow.
Et il a parlé, il a amené des milliers de personnes au Seigneur et partout où il est passé, il a apporté la parole de vérité. Et il a vraiment marqué l'Inde de ce début de XXe siècle et en particulier les années 20. Enfin, fin des années, à partir de 1915 jusqu'au milieu des années 20, il a beaucoup marqué. Et je crois qu'il a fait 14 ans de ministère avant de mourir.
Wow.
Donc il a eu une vie intense de service pour Christ qui a été glorieuse et il a amené vraiment la lumière de Christ dans toute cette région du globe.
Tu me disais aussi quand tu préparais ta rubrique qu'il n'a jamais eu de maison, il mangeait quand on lui donnait à manger et il dormait dans une maison on l'accueillait, c'est ça ?
C'est ça, il comptait entièrement sur la provision de Dieu et jamais il n'a demandé un repas, ni demandé l'aumône, ni demandé un toit et il ne prenait que ce qu'on lui proposait. Et souvent, le Seigneur faisait en sorte qu'il ait un toit. Et il ne s'est jamais ni plaint, ni cherché, alors encore moins s'enrichir. Qu'il avait vraiment fait un vœu, en prenant son habit de sadhu, il a dit « Je servirai Jésus-Christ, et c'est lui mon trésor, et c'est lui que je servirai, quoi qu'il m'en coûte. » Et il en a vécu de la persécution. Oh. Il en a vécu beaucoup.
Quel courage,
ça.
C'est des histoires incroyables quand même. Hein. Vous connaissiez, vous, Frank, tu connaissais ?
Non, je ne connaissais pas. J'avais entendu son nom et tout, mais pas l'histoire au complet. Super.
Oui, je crois que son livre est en accès libre sur Internet, aujourd'hui.
En PDF,
En PDF, peut-être même sur enseignement.com, MCITV.
En tout cas, on a des articles de lui, en tout cas.
Ouais, je crois même son livre.
Oui, c'est possible.
Il a écrit, à la fin de sa vie, il a écrit pas mal de livres qui racontent... c'est ce que Jésus lui a fait vivre, et puis aussi des visions qu'il a eues puissantes. Donc, il a été un écrivain pas prolifique, mais il a quand même écrit des choses, donc on peut les lire.
C'est passionnant, et ça nous fait réfléchir, parce qu'il a vraiment dû renoncer à tout.
C'est ça. Moi, quand j'écoute Anne et que j'entends sa vie, ce qui est formidable, c'est que quand tu vois un tel homme, tu vois Christ, en fait. Il te ramène à Christ, il te fait voir Christ, et ça, c'est extraordinaire.
Oui, vraiment.
Vraiment, ce qui impressionnait les gens quand il arrivait quelque part, c'était cette foi calme, noble et puissante. En fait, il n'était pas du tout extraverti, il ne criait pas du haut du pupitre, il était très calme, très posé, et il irradiait la paix de Dieu. Et ça saisissait tous les gens qui l'écoutaient. Ils étaient saisis par cette noblesse, cette foi, ce calme, cette paix qui ressortait de cet homme. C'était spectaculaire. Moi, je ne l'ai pas connu, je n'étais pas encore sur la terre. Mais en tout cas, tout ce que j'ai lu de lui, ça tend dans le même sens. C'était vraiment un homme qui irradiait la paix de Dieu. Mais par contre, il a été beaucoup critiqué parce qu'il y avait des missionnaires qui voyaient d'un mauvais œil, qui soient habillés comme un sadhu, qui gardent l'habit traditionnel parce que dans leur tête, tu deviens chrétien, donc tu adoptes la culture occidentale. Mais lui, il voyait pas pourquoi il laisserait sa culture locale.
C'est ça, parce que lui, il avait vraiment un appel auprès des hindous, majoritairement. C'est vraiment là qu'il a porté du fruit.
Vraiment.
Fait.
Et puis on voit que c'était vraiment conduit par Dieu, ce choix de garder l'habit traditionnel, parce que ça lui a ouvert énormément de portes.
Exactement. Ah, c'est glorieux. Merci encore, Anne. Encore une fois, un flashback extraordinaire qui nous fait du bien. Et on se dit qu'on a du chemin. L'histoire de Christ est la plus enrichissante de toutes, c'est certain. Mais c'est vrai, comme tu dis, quand on entend des histoires d'hommes comme ça, tellement d'humilité, tellement un cœur tellement attaché à Christ, un prix tellement fort payé... On se dit que finalement...
Puis j'ai même une petite conclusion. L'école a été fermée, mais il y a quand même eu deux conversions.
Oui.
Le petit ami a été aussi empoisonné par sa famille. Il est reparti avec le Seigneur, mais Sadhu Sundar Singh, il a prêché à des milliers de gens. Donc, les persécuteurs ont fermé peut-être une école, mais Sadhu, il en a suffi d'un.
Exactement.
Sundar Singh, il en a suffi d'un pour aller évangéliser toute cette grande région de l'Himalaya.
J'y ai pensé quand t'as dit l'école fermée, je me suis dit rien que pour le sadhu, ça valait la peine.
Les persécuteurs s'acharnent, mais ils ne peuvent rien contre la puissance de l'Esprit de Dieu.
Amen. En tout cas, une émission qui fait réfléchir et qui nous fait encore plus sonder notre cœur. J'imagine que vous, à la maison aussi, vous avez sondé vos cœurs en écoutant non seulement la rubrique flashback, mais aussi tout ce qui s'est passé avant, la discussion qu'on a eue. On voit que notre joie, notre paix ne doit pas dépendre de nos richesses. En réalité, les richesses sont éphémères, comme on l'a dit. Celles qui comptent, c'est les richesses qui sont amassées au ciel. Donc, je le redis, il n'y a rien de mal dans la richesse. Bien au contraire, dans ce monde, si on veut être capable aussi de pouvoir porter du fruit, porter des œuvres. On a besoin de finances, mais c'est une histoire de cœur. À quel point sommes-nous attachés à l'argent et à quel point surtout l'argent dirige notre vie. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser, que vous pouvez vous poser à la maison. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Comment éviter les querelles ?» Et oui, les disputes, les querelles. Ça existe, même chez les chrétiens, malheureusement. On va voir comment on peut éviter un maximum les disputes. Nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et « Culture et médias ». Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.